Merci, cher Axel. Nous sommes donc à notre émission à bâton rompu, Olivier d'Outrebente, et j'ai la joie aujourd'hui d'accueillir non seulement Romain Gardet de Sauce, mais un de ses proches amis et même professionnel qui est Benoît Blaise. Bonjour messieurs, en ce très beau jour, toujours de printemps, avec un temps magnifique, nous allons égayer cette émission de vos compétences en tant qu'ébéniste l'un et l'autre, n'est-ce pas, mon cher nous avions fait une première émission, Romain, ensemble, et puis vous m'avez expliqué que c'était très bien d'avoir aussi un gentil, non pas collaborateur, mais un spécialiste également.
Bonjour maître, merci de m'inviter de nouveau et je suis très heureux de venir aujourd'hui avec mon cher maître aussi.
Co-religionnaire.
Voilà, qui m'a appris le métier. Ça fait maintenant 30 ans de ça que je suis rentré dans son magnifique atelier au Faubourg Saint-Antoine, donc en 96. Et que j'ai pu découvrir et apprendre à redonner vie à des meubles qui sont pour la plupart des chefs-d'œuvre réalisés au XVIIe ou XVIIIe siècle. C'est peut-être la plus belle période pour l'ébénisterie et pour le mobilier et les objets d'art. Donc grâce à Benoît Blaise.
Arrête, c'est pas moi.
Voilà.
Eh bien alors, cher Benoît.
Bonjour maître, je suis content de vous retrouver tous les deux. Et puis j'ai un petit peu écouté votre précédente
émission
à bâton rompu. J'ai trouvé qu'il y avait Romain encensé tout le monde, mais il ne parlait pas beaucoup de lui en fait.
Mais non, il a bien fait de parler de vous.
Alors qu'il a monté un atelier
remarquable.
Tout seul.
Oui, remarquable. À vos croissons.
Non, à Garches.
Ok, à Garches, pardon, je me trompe toujours.
J'ai repris un atelier.
Oui, tu l'as repris, mais tu l'as fait revivre.
L'atelier d'un de vos amis, d'ailleurs.
C'est la première personne qui m'a accueilli quand j'ai cherché ce métier, qui a consacré 2 heures à m'expliquer les éventuelles écoles à faire, les fournisseurs à voir, etc. Vraiment très, très gentil. Et puis après, on s'est retrouvés, il venait le lundi pour faire ses courses, comme beaucoup d'artisans de
petite
ceinture.
Qui s'appelait Yann Gohain.
Et Yann, un jour, est arrivé, il s'est assis péniblement sur un tabouret de mon atelier, a éclaté en sanglots en me disant qu'il était atteint d'un mal incurable et qu'il comptait sur moi pour trouver une solution pour son atelier, sachant que son épouse était décédée et qu'il avait un enfant à charge encore.
Ah oui, il était donc très jeune.
Oui,
il avait 50
ans. Oui, voilà, c'est ça.
Ouais. Et j'en ai parlé à Romain, qui était au fond de l'atelier à son compte, bien chauffé l'hiver.
Très généreusement accueilli.
Qui n'était pas très enthousiaste, mais que tu devrais quand même aller voir, Romain. C'est peut-être une opportunité pour toi. Ouais. Et il est tombé sur les sœurs de Yann, qui sont tombées sous le charme de Romain, comme vous imaginez.
Ben, j'imagine bien.
Il y avait 2 cousins, un polytechnicien brillant, qui disaient « Mais mettez un lavomatique là-dedans, puis passez à autre chose. »
Catastrophe.
Et les sœurs ont dit « Mais tu es en train de trahir la mémoire de notre cher Yann. » Et Romain a magnifiquement relevé ça. Voilà.
Ouais. Ouais,
et développé, puisque maintenant il a une clientèle internationale, enfin, il a dépassé tout le monde depuis longtemps.
Mais on a une tradition humaine qui est très importante, et je crois que cette filiation-là...
Je trouve que c'est un bel exemple pour des jeunes qui peuvent nous écouter.
Exactement, on peut saluer ces jeunes.
De voir quelqu'un qui a le courage de démarrer quelque chose.
Et cette filiation, elle existe évidemment dans votre métier après, mais déjà on peut en parler, il faut effectivement, comme vous le dites Benoît, il faut inciter les jeunes à sortir entre guillemets de leur petit chez-soi et de leur entre-soi et aller vers un travail qui peut les intéresser. Donc en fait vous êtes prêts à l'un et l'autre entre guillemets à même recevoir, comme moi j'ai des stagiaires à mon étude, et je crois que c'est très très important de justement de transmettre. Oui, c'est comme la religion, le terme religion, c'est bien transmettre, et je crois que tous les trois nous avons les convictions que nous partageons ici à Radio Courtoisie, que je salue bien sûr en la personne également de Richard de 16, et bien sûr de notre ami Boulet. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Nous sommes une grande famille. Et je crois que la tradition, effectivement, elle existe dans l'humanité et nos passions. Et moi-même, je dois dire, je suis en train de céder mon étude à ma fille. Eh bien, en 1826, j'avais un arrière-grand-père qui était nommé commissaire-priseur au même titre que ma fille. Donc, je suis très heureux de vous dire que la tradition, elle existe aussi dans nos métiers, effectivement, qui se rejoignent, parce que le métier de commissaire-priseur, c'est quand même rendre hommage aux œuvres que vous-même, vous, non seulement vous conservez, mais vous restaurez. Alors Benoît, expliquez-nous d'où vous arrivez exactement, si ce n'est du Faubourg, et même peut-être une maison en province, parce que ce matin vous êtes venu exprès de province.
Je vais être très succinct. Moi, j'ai vécu 20 ans en autarcie au fin fond du Limousin, et puis je me suis endormi sur mon code civil, excusez-moi maître. Et
non, mais après, moi aussi, un petit peu.
Vous aviez aussi l'idée de...
Oui, j'ai toujours été intéressé par les jolies choses.
Bah oui, ben le bon Dieu nous a déjà une belle nature qui s'impose à nous, que nous devons admirer et nous devons avoir de la reconnaissance. Et je crois que c'est la même chose pour votre métier.
Et vous avez un don aussi pour le dessin.
Au départ, j'aimais bien le dessin, oui.
Le dessin.
J'avais beaucoup aimé restaurer des tableaux.
Alors, les dessins, parce que ce sont deux spécialités un peu distinctes.
Ces tableaux.
Il y a soit les tableaux, soit la restauratrice de dessins. C'est pas évident d'en trouver d'ailleurs, mais enfin, on en a. On en a encore. Et donc, vous êtes parti sur le dessin au départ.
En fait, j'ai une grande sœur qui est très gentille avec moi, qui m'a dit, mais tu vivras jamais de ça. Élargis un peu
le spectre.
Et puis, va voir l'ébéniste de mon mari. Du coup, je suis allé voir un vieux maître du Faubourg Saint-Antoine.
Rappelez ce qu'est le Faubourg Saint-Antoine.
Oui, un peu la tradition du meuble depuis Louis XI.
Ouais.
Et ce vieux monsieur m'a accueilli aimablement. Il m'a conduit une première fois, une deuxième fois, puis la troisième fois, il m'a pris à mi-temps, à plein temps, puis j'étais un peu devenu son fils à la fin.
Comme quoi, en étant, puisque nous avons sûrement des jeunes ou des personnes un peu plus âgées, c'est-à-dire leurs parents, qui peuvent susciter dans l'âme de leurs enfants, justement, qui ont des interrogations, d'aller voir même des gens qui peuvent être un peu rébarbatifs au départ et que l'on peut penser déranger et finalement, en s'accrochant, on arrive à quelque chose. Donc vous êtes arrivé chez ce...
Et grâce à ce vieux monsieur, j'ai pu m'installer dans un autre atelier à côté du sien, dans le Faubourg Saint-Antoine. Avec sa clientèle magnifique, son stock de placage.
Son stock de placage, oui.
Et puis il venait me voir de temps en temps, voir comment ça se passait. Quand j'étais pas là, je me faisais enguirlander. Mais tu dois être à l'établi, qu'est-ce que tu fais chez tes clients?
Ah, oui.
Et j'ai bien écouté tout ce qu'il m'a dit, j'ai essayé de...
Oui, il faut effectivement écouter.
Son activité.
Exactement.
Et puis après, j'ai eu pas mal de gens qui sont venus dans mon atelier. Moi, je suis arrivé après une période un peu douloureuse qu'on retrouve aujourd'hui. Je parle du passage de l'ayatollah Khomeini en Iran, qui a bloqué toute l'activité du Faubourg Saint-Antoine.
Il a 49 ans.
79. Tout est resté bloqué au Havre, et ça recommence aujourd'hui. J'ai un gros chantier à Doha, et c'est exactement le même phénomène.
Ah oui, carrément stoppé.
Bref. Et donc j'ai vu plein de corps de métier en pleine force de leurs moyens qui sont présentés à l'atelier.
Mais vous avez fait ce qu'on appelle sur le tas, ou vous avez fait des études avant, le code civil?
Après, j'étais à l'école Boulle, je suis à l'école
Boulle. Expliquez-vous quand même que la référence, c'est l'école Boulle.
J'ai suivi des cours à Place des Vosges, à Boulle, etc. Mais c'était surtout mon vieux maître qui m'a tout appris. Et je vous dis, il y a plusieurs personnes qui sont arrivées les unes après les autres, qui se connaissaient d'ailleurs, qui faisaient une maison connue, Mercier, Rink et compagnie.
Bien sûr.
Et chacun avait une compétence
particulière.
Vernisseur, sculpteur, ébéniste.
Oui, parce que d'un bout de bois, si on peut dire, déjà choisi, on arrive à un meuble très élaboré, soit en bois brut, soit en marqueterie. Mais vous êtes spécialisé dans la marqueterie tout de suite.
J'avais un marqueteur qui s'appelait Didier Trouillard, que j'aimais beaucoup, qui a pris sa retraite, dont j'ai récupéré la machine.
C'est-à-dire il y a combien de temps? Il y a quelques décennies, on va dire ça comme ça.
Une bonne notion du temps.
Non, il a pas sûr. Pris sa retraite.
Je sais pas, ouais.
Ouais.
Et ces machines-là, elles sont arbalètes, oui, ces grandes machines-là, qui sont magnifiques. Il y en avait partout dans le faubourg, là, il n'y en a plus beaucoup.
Oui, parce que ça s'est raréfié. Est-ce que, on peut peut-être faire une petite incise, est-ce que le mobilier moderne d'aujourd'hui en bois massif ou en marqueterie a toujours autant de succès, je dirais depuis 30 ou 40 ans, ou c'est complètement à l'abandon, ça? Parce que vous êtes plus pour la restauration. Est-ce qu'il y a beaucoup de fabricants aujourd'hui? Voilà.
Il existe des créateurs de mobilier, oui.
Mais d'art contemporain.
Contemporain et qui fonctionne plutôt bien.
On
en connaît qui sont dans la guerre.
Avec l'ébénisterie, quand même?
Bien sûr.
Avec l'ébénisterie.
Oui, qui plaque des matériaux qui soient métalliques ou organiques.
C'est ça.
Ou du bois. Voilà. Et qui aime bien d'ailleurs faire des mélanges entre ces matériaux.
Oui, tout à fait. Ouais.
Mais aujourd'hui, donc, vous êtes, je dirais, à l'automne de votre profession, non pas de votre profession, mais de votre activité.
À la fin de l'automne, oui.
Oui, et vous allez donc, vous avez donc fait essentiellement de la marqueterie?
Nous, on a fait tout ce qui concernait la restauration des meubles et sièges.
Toute la restauration des meubles années. Et des sièges.
Soit pour vos confrères ou pour des experts, pour
des collections,
des logements,
c'est ça.
Qui ont donné de très belles adresses.
Ouais.
Des collections privées. Et malheureusement, tout ce qui est à l'atelier part à l'étranger en ce moment.
Ouais.
Ça fait depuis quelques années.
Ouais. Mais vous parliez des maisons d'éménagement parce qu'il y avait de la casse ou c'est parce que c'était à l'occasion d'un déménagement que là on s'aperçoit qu'il y a des choses qu'il faut d'une manière indispensable gérer et restaurer.
Je n'ai pas fait d'enquête en amont, mais nous on avait des choses à restaurer qui passaient par ces maisons qui avaient très bonne réputation, qui l'ont toujours d'ailleurs.
Mmh. Donc l'ébénisterie, un petit peu de tout. Et vous disiez que vous faisiez votre marché, entre guillemets, pour les accessoires, c'est-à-dire la bronzerie, si je puis dire, ou la bronzerie.
Ce qui était merveilleux au Faubourg, c'est qu'on avait tous les corps de métier et tous les fournisseurs sur place. Moi, dans un rayon de soit 300 mètres, j'avais tout ce qu'il fallait.
Et ça.
Cuir, serrure, bronze, ciseleur, doreur, fondeur. Je ne veux pas faire le vieux.
Et bien d'autres encore.
Aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose.
Oui, ça s'est beaucoup, beaucoup raréfié.
Il y a même un marchand de couleurs qui est là depuis des années, qui va, je crains, disparaître à côté de chez moi.
Rien que le terme marchand de couleurs, que j'évoquais il y a 2-3 jours, justement dans une ville assez proche de la mienne, et c'est vrai, il y avait les marchands de couleurs.
Tout à fait.
Et la couleur...
Ils les broyaient et puis ils les mettaient dans les
sachets. Exactement, des couleurs naturelles qui étaient extraites justement de plantes ou même de carapaces d'insectes.
Oui, je vous ai entendu la dernière fois, là, vous parliez de... Heureusement qu'il y avait un doreur là, qui avait bien...
Oui, qui m'avait bien repris.
Mais je ne dirais pas repris, mais avait complété ta photo.
Complété sur ma petite erreur.
Ah non.
Effectivement, la base de la gomme laque,
c'est bien
d'insectes qui ont absorbé la sève de feuilles, qu'ils ont récolté avec des peignes, plongés dans des grandes cuves en cuir au bain-marie. Ils enlèvent la couche avec toutes les... Et ils renversent ça sur une grande plaque, comme une plaque en marbre, comme un caramel, vous voyez.
Comme un caramel, oui.
Et ils cassent ça en petites paillettes, et nous on récupère ça dans des sacs, et on met ça dans de l'alcool, et c'est la base de notre vernis au tampon. Et vous avez plusieurs couleurs, vous avez la cerise qui est très rouge, vous avez l'éléphant, vous avez la fine orange, enfin bon, toute une variété, et chaque vernisseur au tampon avait son mélange à lui.
Avec des noms merveilleux.
Oui,
très beau. Ouais,
j'ai récupéré une vieille cuve d'un vernisseur que j'aimais beaucoup.
Oui, parce que le vernis en tampon, expliquez-le, puisqu'on parle à bâton.
Allez, Romain, vas-y.
Allez,
Romain, le vernis au tampon, est apparu essentiellement sous l'Empire, avec l'apparition du papier de verre. Donc, et le début le tout début de les prémices de l'industrie. Non.
Là, je crois que vous violez Romain parce qu'il préfère le poli, lui.
Et le vernis au tampon, il y a 3 étapes. Il s'agit, la première, de remplir parfaitement les pores du bois. On saupoudre le bois de pierre ponce. On va travailler cette pierre ponce en la frottant avec un tampon imbibé d'alcool.
Très régulièrement.
Il aurait peut-être dû filmer, finalement.
Et puis, oui, parce que je fais le geste machinalement. Et puis ensuite, une fois les pores du bois bien remplis, et avec, on obtient une surface brillante, comme un marbre, bien poli. Et à partir de là, on va changer notre tampon, on va prendre une toile plus fine et on va rajouter cette fameuse gomme laque dans le tampon qui est
imbibé d'alcool. Le tampon, il est composé de...
Le tampon, c'est un tampon de laine.
C'est de la laine.
C'est de la laine, c'est un vieux cul.
On tire la maille du chandail,
voilà.
Une petite boule, c'est de la... et on fait une souris avec ça.
Ouais.
Dans un...
On récupère beaucoup de choses dans notre métier,
n'oublie
beaucoup
pas
de matériaux.
Étape, Romain.
Et donc la dernière étape, une fois qu'on a travaillé avec la gomme lac pour donner une tonalité un peu chaude et une protection au bois, parce que c'est la gomme lac qui va apporter la protection. Eh bien, puisque elle durcit. Et pour appliquer la gomme lac de manière régulière, c'est un peu comme une alchimie. On travaille sur la surface, sur toutes les surfaces du bois, et ensuite avec de l'huile. Et cette huile qui nous permet de faire glisser le tampon, cette huile, il faut la retirer. Et c'est donc la troisième étape, qui est l'éclaircissage, qu'on appelle l'éclaircissage.
On enlève l'huile.
Voilà, on enlève l'huile avec un tampon qui est simplement, qui est très peu chargé et uniquement en alcool à vernir, 95 degrés. Et on travaille très très légèrement, on affleure à peine les surfaces pour absorber cette huile.
Et le résultat est magnifique.
Ce que ne dit pas
Romain avec son humilité habituelle, c'est qu'il a été initié par le plus grand des vernisseurs du Faubourg Saint-Antoine.
Ah,
oui.
Je lui ai envoyé à peu près une quinzaine, une vingtaine de jeunes. Généralement, j'avais un coup de téléphone 15 jours après, un quart d'heure après, 5 minutes après. Tu peux le reprendre. Et Romain est resté plusieurs mois.
Un vernisseur.
À la stupéfaction générale,
Il a résisté.
Ouais. Très bien maîtrisé cette technique.
Un ancien.
C'est vrai qu'il a même, aujourd'hui, il a un certain vernis, faut connaître. Mais sans vous couper trop la parole, puisqu'il faut qu'on fasse quand même une émission en s'entendant et que les gens puissent nous écouter, simplement, je pense que c'est un travail, je dirais, de longue haleine et sans jeu de mots, le vernissage au tampon. Je crois que c'est quand même un peu comme des traditions des lacs des Chinois qui sont des lacs qui se mettent successivement les unes sur les autres et pour lesquels on fait des intailles d'une manière un peu grossière, j'explique ça, mais c'est quand même un travail qui est à la fois répétitif, mais vous voyez
avec
les progrès.
Avec de nombreuses étapes.
Oui. De nombreuses étapes. Et alors, sur un meuble, est-ce que vous pouvez me dire le temps que vous passez pour faire ce genre de choses? Un minimum, c'est pour faire ce travail.
Pour faire un beau vernis au tampon sur un meuble en marqueterie, comme un bureau, un secrétaire ou une commode, il faut d'abord adoucir bien les surfaces. On parle de la dernière étape quasiment dans le procédé de la restauration des meubles. Mais avant ça, avant le vernis, il faut recoller les marqueteries et les recoller les plus à fleurs possibles, les plus à plat possibles, pour épargner
des aspérités qui seraient visibles après.
Et puis des affleurements qu'il faut proscrire.
On est reparti en amont. Là.
Donc là c'est l'étape d'avant. Donc,
tu ne veux pas décrire tu vas chercher le meuble chez le client, non?
Donc on adoucit les surfaces. On va faire ensuite des raccords de couleurs sur les nouvelles pièces apportées, les nouveaux plaquages ou marqueteries découpées qui étaient manquantes.
J'aurais que tu dises à mettre d'autres bandes que la finition est très délicate parce que vous pouvez tout brûler si vous...
En 3 minutes.
Oui, oui.
Ah ben ça, c'est comme la cuisine.
Oui,
hein.
C'est comme la cuisine. Il faut aller très vite.
Je ne sais
quand
pas.
On utilise parfois des acides pour raccorder et pour vieillir des bois. Ce qui est important d'ailleurs, c'est de bien choisir ses plaquages, le port, la couleur et le veinage. C'est les trois éléments essentiels pour faire des greffes qui se fondent parfaitement. Dans le meuble.
Oui,
dans le
pourquoi,
décor.
Pourquoi? Parce que vous êtes en train de parler de meubles que vous restaurez.
Oui.
Et effectivement, soyez des meubles. Est-ce que vous faites de la fabrication contemporaine aujourd'hui? Rien
pas
du tout. Vous faites que
ça.
La restauration. Ouais. Donc, on explique à nos clients en ce moment que d'abord, nous sommes en train de faire une émission à Radio Courtoisie sur l'ébénisterie d'une manière générale, et plus particulièrement, là nous parlons de meubles anciens qui ont été pris bien sûr chez un client que vous avez conseillé. Ouais. Et donc ces meubles-là, eux, ont quelques manques, ouais. Il peut y avoir des manques, il peut y avoir des réajustements, et un meuble du 18e n'a pas forcément été restauré. Vous devez avoir des meubles nature,
quelquefois.
Mais de temps en temps, vous avez quand même des meubles qui ont une enture, c'est-à-dire un pied cassé
ou qui
et
ont
refait.
Été, ou, voilà. ou qui ont été mal restaurés,
mal
massacrés.
Restauré, voilà.
Oui, ça arrive aussi. Et là, c'est très embêtant, parfois. Ça demande d'aller
affection.
Très loin dans le remplacement des pièces et dans les heures de travail qui s'accumulent. Mais donc pour finir. Concernant la préparation du vernis,
oui.
La vernis au tampon, ça nous prend au moins une quinzaine d'heures, une quinzaine, 15
voilà,
à 20 heures
ce que je voulais
sur
expliquer.
un meuble en marqueterie classique du 18e siècle.
Et les heures, faut les étaler parce qu'il y a des temps de séchage.
Bien sûr. Ouais. C'est pour ça que moi je vois, c'est une catastrophe. J'ai fait une vente hier à Drouot, Bagnolet, c'est là où on vend. Maintenant, des nouvelles salles où on peut vendre du mobilier, même de bonne qualité.
Oui.
Mais plus personne à 20 euros, même sur un secrétaire Louis-Philippe. C'est devenu une catastrophe. On est en train de perdre notre civilisation. Je rappelais, il n'y a peut-être pas très très longtemps, que lorsque j'avais 6-7 ans, j'avais un livre d'histoire et je voyais Bernard Palissy qui mettait son mobilier.
Dans le four.
Exactement, pour pouvoir mettre dans ses feux de moufle ces petits récipients, pour pouvoir cuire ces pièces, et j'étais sidéré, j'avais 7 ans, j'aimais déjà le mobilier bien sûr, et je trouve que aujourd'hui nous sommes en train de se tirer une balle, non pas dans le pied, mais dans le cœur, et on voit des meubles exceptionnels qui... malheureusement, vont partir comme...
À l'étranger, parfois.
Voilà, exactement.
Aujourd'hui, c'est ce qui arrive fréquemment.
Oui, quand il n'est pas détruit, malheureusement. Oui. Qu'est-ce que vous avez restauré, Benoît, comme très beau meuble, un meuble exceptionnel?
Un certain nombre.
Un certain nombre. Mais est-ce que vous êtes rentré dans un intérieur...
J'ai le souvenir d'un cabinet
voilà.
à décor synergétique.
Très bien.
Allemand 17e. Qui avait été malheureusement déménagé aux Bahamas.
Oula, oui, donc les chutes de température ou des hausses de température.
Non, mais surtout des bestioles énormes qui avaient démoli tout le bâti. Il ne restait plus que l'écaille et l'étain. Et...
Ah oui, il y avait tout le bâti qui avait disparu. Ah oui.
C'est arrivé comme une.
Il n'y avait plus de carcasse.
Une coquille vide.
Oui.
Et ça, c'était un travail merveilleux.
Un meuble 17e.
C'était un très bon souvenir, ça. C'était il y a longtemps.
Oui. Enfin, longtemps, sur un meuble du 17e, c'est pas si vieux que ça. Voilà.
Sinon, j'ai vu enfin bref, quelques objets un petit peu atypiques.
Ouais. Des objets atypiques.
Moi, je peux en témoigner.
Même des bronzes aussi.
Je peux en témoigner, parce que pendant les 10 ans passés dans votre atelier, j'ai pu travailler sur des merveilles, que ce soit des meubles avec des marqueteries extraordinaires de Thomas H, du mobilier, des commodes de Cresson, enfin, on peut quand même les citer.
On peut commencer peut-être par Cresson et après par
Lévi-H. Secrétaire de BVRB.
Oui, bien sûr, on peut peut-être commencer par Cresson. Alors, expliquez qui était notre cher Cresson.
Charles.
Charles Cresson était d'abord un sculpteur.
Il y a encore une de ses sculptures à Amiens.
Ouais. Et la sculpture, c'est le plus grand des arts.
Avec le dessin, pour moi.
Oui.
Le dessin, la sculpture, pour moi, c'est... l'un veut rendre les trois dimensions, oui. et l'autre les acquiert déjà par les chefs-d'œuvre qui sont faits par le sculpteur.
Et oui, et le sculpteur, pour réussir ses œuvres, maîtrise également le dessin. Mais donc, Charles Cresson avait ce talent qui lui a permis... également de faire ces bronzes qui ornaient les meubles, ses créations, puisqu'il a, c'est non seulement c'est un sculpteur de génie, mais c'est un créateur qui a donné des lignes nouvelles à des meubles, des décors très fantaisistes, alternant les marqueteries avec des bronzes.
Un frisage, c'est pas mal.
Voilà, des frisages, des frisages plutôt géométriques.
Mais je pense que ça passera toutes les modes, Cressant, j'espère.
Vous dites ?
Je pense que ça passera toutes les modes.
Ah oui, oui, bien sûr. Le classique est indémodable, disait ma mère, et je crois que c'est vrai que quand on voit un meuble, il y a une histoire. Automatiquement, il y a une histoire.
Et pour situer Charles Cressant, c'est l'époque de Louis XIV.
Totalement.
L'époque de Louis XIV jusqu'à la Régence.
Aller à Versailles.
Voilà. Et c'est fabuleux. Ce sont des meubles qui sont...
Alors, déborde un grand équilibre,
oui,
et une grande ornementation de bronze, parce que c'était des meubles assez chargés. Alors, on peut parler aussi des bronzes maintenant. Alors, on va parler de Cressant, on parlait de Hache, vous parliez éventuellement, on aurait pu parler de Gaudreau. Enfin,
oui.
Tout le monde peut aller faire un tour à Versailles.
On a la chance d'avoir de très nombreux grands ébénistes et que nous affectionnons, que nous connaissons bien, puisqu'on a, ces artistes qui sont maintenant disparus il y a 200-300 ans, qui ont posé leurs mains pour façonner ces objets, nous sommes maintenant à leur suite et posons les nôtres, et c'est extraordinaire pour nous, c'est une grande joie de vivre ça.
Voilà. Est-ce que vous avez été surpris un jour ou un autre par un ébéniste qui a fait quelque chose de très particulier que vous ne connaissiez pas dans votre carrière ? Alors c'est une question, ouais, ça.
Moi, ce qui me fascine, ce sont les serrures, les mécanismes.
Ah, voilà. Ouais.
Les mécanismes, c'est une des choses les plus fascinantes qui me surprennent toujours. On a le roi des meubles à mécanisme, c'est David Rodgen.
Rodgen, bien sûr.
Mais on en a d'autres aussi. Évidemment, Eubène, l'ébéniste de Louis XV. Et puis, ces deux apprentis, Jean-Henri Riesner et Jean-François Leleu,
voilà,
qui ont fait des commodes qui, d'un tour de clé, condamnent
l'ensemble,
les cinq tiroirs. Et le mécanisme est très, très amusant à étudier. Il y a des tringles un peu partout, dissimulées dans les traverses. Et c'est magique.
Oui, non, ce sont des jeux exceptionnels de qualité et de génie inventif. Ouais. Ces gens-là, d'abord, observaient, comme vous, c'est ce que je vous posais comme question. Qu'est-ce qui vous a un peu interloqué ? Et en fait, c'est la serrurerie. Effectivement.
Oui, j'aime bien.
Avant la serrurerie, il y a le dessin du...
Exactement.
Je reviens à votre question tout à l'heure. Là, je suis un peu...
Mais au contraire, bâton rompu.
Quand vous ouvrez le salle verte, vous avez une...
Oui.
J'ai eu la chance d'avoir quatre meubles qui étaient sur la...
En illustration dans le salle verte.
Extraordinaire. Qui était dans un bel endroit jumeau du musée Rodin.
Très bien.
Et il y avait une commode... Époustouflant. Il y en a une paire au monde. Il y en a une qui est chez la reine Victoria et l'autre dans cette collection. Ça, c'était un moment...
Un moment de joie.
En lévitation.
Et en lévitation, effectivement. Moi, je me souviens avoir vu comme ça, grâce à un de mes experts qui m'a appris le métier, qui était Roland Lepic, et puis son associé Alain Azaraga, m'avait emmené dans une maison magnifique autour de l'Étoile, où il y avait une commode de Benman, a tombé par terre, elle arrivait de Versailles et elle était sortie au moment de la Révolution, quand il y a eu les grandes ventes, malheureusement je dis grandes ventes révolutionnaires. Et cette commode de Benman, je l'ai encore en tête 45 ans après, voilà, parce que ce sont des objets qui s'imposent à vous comme les beaux objets religieux, des objets sacrés. Ben, on a devant nous des gens qui ont un passé, qui ont su le faire exister et puis qui nous le passent maintenant. Et je crois que l'un et l'autre, vous êtes des passionnés de ce côté-là.
Oui,
oui.
On a beaucoup de chance.
Dans la même série, en suivant la chronologie, après la commode dont je vous parle, il y avait un prototype du bureau Louis XVI.
Ah, carrément.
C'était estampillé Dubois et Montigny, c'était avec une grosse grecque.
Alors là, bureau Dubois et Montigny, spécialiste de lacs.
Il y en avait une paire comme ça, c'était à ton
nom. Ou Dubois, oui, effectivement, les secrétaires de Dubois, avec la matière, le lac au départ, imitation bien sûr des objets reçus de Chine ou du Japon. On va passer un petit morceau de musique, si Axel est en émission. On va attendre quelques petits instants. Pour autant, on peut peut-être poursuivre et nous dire un petit peu sur les bronzes. Quand vous avez un meuble auquel il manque un pied, je dirais garni, un pied de meuble Louis XV, et souvent une petite finition qui peut être une roulette, plus sous Louis XVI d'ailleurs, mais sous Louis XV, vous avez un petit sabot, et quand il en manque, vous le faites faire.
Oui. Il peut en manquer un, par exemple. On va prendre le modèle déjà existant, pour peu qu'il existe, pour peu qu'on l'ait, et à ce moment-là, on va le confier à un bronzier qui va le faire fondre. Et une fois la fonte réalisée d'après le modèle existant, connu, il va le ciseler, il va le retravailler avec des petits burins pour bien le finir. Et ensuite, de quoi ils seront dorés. Voilà. C'est vrai que bien souvent dans la restauration des objets, il peut manquer des serrures. Là, actuellement, c'est le cas me concernant. J'ai un très beau bureau à l'atelier qui est estampillé de Molitor, Bernard Molitor, qui est consulat, époque consulat, début retour d'Égypte.
Oui, et qui a travaillé déjà sous Louis XVI.
Il a travaillé sous Louis XVI, oui. D'ailleurs, la base du bureau est encore très Louis XVI. Et oui, il était à cheval sur les deux périodes, le Molitor, grand ébéniste. Eh bien, il me manque des serrures trèfles. Alors, je suis en quête de chercher des serrures trèfles qui pourraient s'adapter à mes tiroirs. Il m'en manque deux. Alors, je vais peut-être contacter le spécialiste de la serrurerie, Alain de Saint-Exupéry, qui est en Dordogne, qui est maintenant, je crois que c'est son fils qui a repris.
Oui, il faut des spécialistes.
Voilà. Donc, très souvent, en restauration, on a donc des désordres au niveau des marqueteries, parce que c'est ce qu'il y a de plus fragile, surtout les marqueteries boules. Le bois et le métal, puisqu'il s'agit de laiton, la marqueterie boule, et en fait, non pas de bois, mais écailles de tortue et laiton. Le métal, avec les différences de température et d'hygrométrie, travaille assez facilement et a tendance à se dilater ou à se rétracter et à se décoller plus vite que d'autres matériaux. Alors pourquoi est-ce que je parlais de la marqueterie ?
Parce qu'on parlait des serrures, du coup, c'était logique.
Pas de la serrure, bah oui. Il faut pouvoir allier, effectivement, adapter sur un meuble, et effectivement, quand on voit, vous sortez de chez vous par ce grand temps, vous avez un portail, bah, la dilatation, elle se fait sur le portail. Eh bien, ça se fait aussi sur le mobilier.
Voilà. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recoller le plus proprement possible. Il ne faut pas qu'il y ait de différence d'affleurage. Il faut que tout soit bien recollé à fleur. Ça, c'est une étape très importante et qui peut prendre du temps. Et donc, recoller les éléments. Quelquefois, on a des cuirs qui sont très usés, très, très secs, qu'on va garder, qu'on va conserver si on le peut, ou qu'on va faire remplacer par un bon gainier qui va, il en existe encore au Faubourg Saint-Antoine, bien sûr. Voilà, notre métier aussi, c'est recoller des sièges. En ce moment, j'ai un très beau siège attribué à Quai de Tillard.
Estimé 200 euros par banque en France.
Non,
parti 4000.
J'aime mieux que ce soit estimé 200 et que ça fasse 4000, parce que généralement, on ne trouve plus tellement de mobilier à 4000 euros et ça fait généralement 200. Ouais. Je ne veux pas être désagréable, mais malheureusement. Mais il faut acheter du mobilier ancien.
Heureusement, ce genre de mobilier sublime et exceptionnel garde la cote, et il y a de nombreux amateurs pour ce genre de chef-d'œuvre.
Eh bien, comme nous sommes dans les chefs-d'œuvre, nous allons écouter, je crois, un morceau de Mozart, de, bien sûr, Wolfgang Amadeus, qui était né en 1756, qui est mort en 1791, et on va écouter donc Lacrimosa, qui est un morceau, bien sûr, chéri de nos amis. Pourquoi ?
C'est Benoît qui a choisi ce morceau. Je vous laisse parler, Benoît.
C'est peut-être par rapport à la façon dont je m'éteins professionnellement.
Très bien. Alors, ne restons pas en larmes. Amis, je poursuis cette émission Art à bâton rompu, Olivier d'Outrebente. Je suis avec deux passionnés qui sont Romain Gardé de Sauce, ébéniste, et également son confrère Benoît Blaise, qui lui est dans le faubourg Saint-Honoré, faubourg Saint-Antoine. Saint-Honoré, c'est lorsque les meubles effectivement sont déjà restaurés. Et notre ami Romain Gardé de Sauce, lui, est ébéniste et bien sûr menuisier en ébène à Garches. Alors nous parlions des accessoires là du mobilier. Après avoir parlé, bien sûr, du vernis au tampon, 19e, après avoir parlé de la marqueterie des cailles, 17e, avec un cabinet que Benoît Blaise avait admirablement sûrement restauré. C'est quelque chose de pathétique, parce que vous avez presque quelque chose qui est en cendres, et il faut le ressusciter. Et je crois que le mobilier aujourd'hui, qui malheureusement est passé de mode, pour beaucoup, le mobilier de qualité résiste. Il a toujours résisté, la qualité a toujours résisté. Donc moi j'engage bien sûr non seulement les jeunes à aller vers la restauration de mobilier, mais également être de grands amateurs en achetant du mobilier à des prix qui malheureusement sont révoltants. Et pour autant, eh bien, mettre l'argent qu'ils auraient mis dans un meuble il y a peut-être encore 15 ou 20 ans, et qui était au prix, le mettre dans la restauration du mobilier. On a de moins en moins d'ébénistes, on a de moins en moins d'artistes qui interprètent ce qui a été fait au 17 et 18e siècle. Ce sont des passeurs de reliques, nos ébénistes. Et je crois que on va maintenant parler, comme on parlait de la serrurerie, et vous cherchez une serrure particulière, puisqu'une serrure à trèfle, on va pouvoir en reparler. Qu'est-ce qu'une serrure à trèfle? Pourquoi ça a été fait? Et c'est probablement pour des meubles à secret, pour avoir des clés qui sont, je dirais, un peu des clés de coffre-fort, où on ne peut pas l'imiter. Donc, on va reparler de la serrurerie, puis peut-être tous les accessoires qui tournent autour d'un meuble précieux, avec tous les bronzes, entre autres.
Oui. En effet, les serrures trèfles sont des serrures décoratives, puisque le canon de la serrure a la forme d'un trèfle. On le voit, c'est visuel, c'est très joli.
Le pic, le carreau et le cœur aussi.
Oui, mais on les a aussi, le cœur, on le trouve quand même, ce qui est quand même assez rare.
C'est rare. Mais en carreau, oui, en losange, oui.
On le trouve même en triangle, hein, mais enfin, ça n'a rien de maçonnique.
En triangle aussi, et aussi à double fourreau, avec double cercle.
Ah oui, tout à fait, l'un dans l'autre. Oui. C'est assez typique de l'Empire, généralement, d'accord là-dessus. Oui. L'Empire, la Restauration. C'est fascinant d'ailleurs de voir ces doubles serrures. Oui. C'est-à-dire, vous avez l'entrée de serrure ronde qui vient s'incruster dans une autre à l'intérieur. C'est effectivement des mécanismes passionnants.
Oui.
Et Romain nous expliquait qu'il était passionné par la serrurerie. Rien que d'en parler, on plonge dans le sujet. Et un beau sujet, parce que ce sont des belles matières. Hein.
Ouais.
Il y avait les... Comment s'appellent-ils les bronzes, les aciers de Tola.
Toula. En Russie.
Les aciers de Toula en Russie, qui vous donnent cet aspect un peu d'acier, gris, un peu
bleuté,
brillant.
Ouais.
Ou bleuté, oui, parce que vous avez aussi les...
Ou faceté.
Ou faceté. Et en fait, les serrures... La serrurerie remonte quoi au 12e, 13e au départ, et pour le mobilier essentiellement au 17, 18e siècle. Allez-y, Benoît.
C'était aussi une fabrique d'armes aussi, Toula.
Ah bah Toula était une fabrique d'armes aussi.
J'ai vu une console de Toula sublime à Paris.
Voilà.
Sublime, qui venait de Maria Fyodorovna ou je sais pas qui.
Rien que ça.
Ça a beaucoup d'allure, c'est très léger, c'est très aéré, c'est splendide.
Oui, ils ont fait des choses extraordinaires, tout là.
Des petites choses pour...
Oui, de la tabouterie, c'est ça.
Petit à tisser et autres.
Mais en effet, la serrurerie...
On parle tous les détails du meuble, il faut peut-être commencer par le haut, par le marbre, non? Puis descendre.
Ah ben voilà, on peut parler des marbres.
On peut parler de pierres montées.
Voilà, on peut. Vous faites comme vous voulez, si vous avez, malgré cette belle musique que nous venons d'entendre, quelques lacrymosas.
Les marbres, c'est votre rayon, Benoît, vous les connaissez très bien.
Mais c'est compliqué aussi à retrouver. Hein.
Oui.
Rien qu'un marbre carré de 10 mm, plus personne
n'en
trouve
que ça. On
n'en
trouve plus,
Et ce sont les plus vulnérables et qu'il faut...
Et les marbres de Sainte-Marguerite, ces fameux marbres que Louis XIV a fait venir pour Versailles, on a encore des carrières là-bas, vous ne savez pas.
Louis XIV, il avait plusieurs carrières dont il était passionné.
Mais oui, mais les marbres roses de Trianon, ça m'a toujours fasciné, ça. Et c'est quand même des colonnes dans cette nature verte d'avoir ces roses splendides. Il faut apprendre les couleurs aussi. Hein. On parlait des marchands de couleurs, mais je crois qu'il faut apprendre les couleurs et les complémentaires.
Jacques Dubarry qui a fait un livre sur les marbres en deux volumes avec de très belles reproductions de couleurs.
Ouais.
La plupart des carrières sont épuisées.
Épuisées, oui.
Mais c'est magnifique le domaine des marbres et des pierres. Hein. Porphyre.
Oui.
Splendide.
Oui, on parle des marbres. Alors, les marbres, on parlait des sculptures d'abord. Les sculptures en marbre, déjà, rien que ça, c'est tout un monde fascinant. qui, lui, date des Grecs et des Romains.
Ouais. Hein, qu'on a toujours imité.
Et on, oui,
depuis la Renaissance.
Bien sûr, il y a toujours une... alors, entre l'imitation et la copie, il y a une grande différence. Mais on a toujours imité, bien sûr. Ouais. La fascination de Louis XIV pour l'Italie est exceptionnelle. Le voyage en Italie au XVIIIe siècle, c'était incontournable.
Oui.
Un grand tour.
C'est ça.
Et les marbres. Alors aujourd'hui, moi je me souviens, Roland Le Pic, j'avais hérité de ma famille une très belle commode. Le marbre n'était probablement pas celui d'origine parce qu'il n'était pas très très épais. Alors que c'est sur une commode Régence quand même, on a un meuble avec un joli marbre. Il avait dû remettre au 19e et ça n'allait pas. On sentait qu'il y a des proportions justement dans les adjonctions sur les meubles. Je pense qu'il y a des proportions à respecter. Et le marbre n'était pas assez important, et Roland m'a trouvé quelqu'un qui m'a refait un marbre pour cette commode. Ouais. Et ça habille un meuble d'une manière extraordinaire. Ouais. Non seulement ça le valorise d'un point de vue esthétique, mais c'est très agréable à toucher.
À toucher.
Le côté tactile ouais. Fait le complément de notre côté, je dirais,
visuel.
Visuel, exactement.
D'autant plus quand le marbre a son poli d'origine avec ses petites déformations. C'est ça le dont vous parlez, hein, du toucher. Et certains ont des moulurations vraiment magnifiques avec le contournement avec de la ligne du meuble.
Et le bec de corbin.
Qui suit bien.
Ouais, c'est ça.
L'échantournement des traverses, par exemple. Et je crois savoir que les marbres au XVIIIe siècle coûtaient très très cher et parfois... parfois même quasiment la moitié de la valeur
du meuble. Il avait été élaboré.
C'était, on n'avait pas les mêmes outils qu'aujourd'hui pour les façonner, et ça prenait, il fallait les extraire des carrières avec les moyens de l'époque. Et puis,
vous avez des objets en marbre qui servent à socler aussi des bronzes.
Bien sûr, les astragales.
J'avais un vieux couple de spécialistes en haute époque, et Voltaire, qui me disait... Les marbles, c'est fait au 19e, il faut refaire en bois. Mais oui, la patine du bois est beaucoup plus jolie avec la patine d'un bronze Renaissance. Et il avait raison. Mmh.
Très grand spécialiste, Anthony Ebden.
Bien sûr. Et il y a toujours sa boutique. Je revois encore cette jolie boutique avec très,
magnifique sur
très
le quai
belle
Voltaire.
Boutique sur le quai Voltaire. À côté
je crois que j'ai vu le plus beau cabinet du monde chez lui.
Ah oui, ah, carrément. Ouais.
Chez lui.
Ah, carrément chez
pas
lui.
Pas dans la boutique.
Ah, ouais.
Il l'avait présenté pour l'objet extraordinaire, mais il avait mis une pastille rouge, mais il ne voulait pas le vendre.
Il ne voulait pas le vendre, oui.
C'était son bébé.
Oui, on peut comprendre.
C'est un objet qui avait fait tout le tour de l'Europe et chaque corporation avait rivalisé avec la précédente. C'était, mais.
Ah oui, somptueux.
Avec un cristal à colonne au centre, et, mais c'était.
Ah oui, Anthony,
très, très beau.
Plus,
j'ai...
plus un bijou qu'un meuble.
J'ai eu aussi la joie de le voir, ce meuble, chez lui.
Alors, le marbre, on continue. Comment reconnaître un marbre moderne d'un marbre ancien?
Déjà, vous le touchez et vous voyez les irrégularités entre l'index et le pouce.
Voilà.
Et puis, des fois, on dit que derrière, c'est lisse, mais ça, c'est pas... je ne suis pas d'accord avec
c'est
ça.
Pas...
vous avez de très beaux meubles 18e qui sont lisses derrière.
Il y en a quand même, oui. Mais enfin, on en voit moins.
Mais généralement, il y a les traits, il y a les traces.
Ouais. On voit des traces.
Enfin, pendant 40 ans, j'ai vu des marbriers faire les traces derrière les marbres.
Oui.
Ça me fait un peu sourire.
Ils n'ont aucun mal à donner un aspect
Découpé aspect ancien.
À la main.
Voilà,
oui.
Pour faire illusion.
Oui, plus dur, c'est, plus
aucun
dur, c'est
mal.
De trouver le vieux marbre, ça c'est plus compliqué.
Oui. Pour trouver un vieux marbre,
pour trouver un beau et ancien marbre récupéré, puisque Benoît le disait tout à l'heure, les carrières que Louis XIV a fait exploiter sont toutes malheureusement épuisées. Donc, et le plus beau des marbres, qui était le marbre des Égyptiens, c'est bien ça, le porphyre.
C'est pas pareil, le porphyre.
Ouais.
Il y avait le porphyre de Suède et le porphyre d'Égypte. Celui d'Égypte est très dur à trouver. Les Romains en ont beaucoup utilisé.
Oui.
Et on le retrouve dans les collections avec le Grand Tour. On retrouve des pièces faites à partir de ces éléments, de ces bribes d'anciennes colonnes et autres, qui sont transformées en petites...
En plus petites pièces.
En encrier, ou en, vous savez, ou en... L'endroit où on mettait les viscères, là, vous savez.
Oui, des boîtes à viscères.
C'est magnifique d'ailleurs, ça, j'aime
des
beaucoup.
Très belles boîtes à viscères. J'en ai acheté une, j'en ai raté une autre il n'y a pas
splendide,
très longtemps.
Avec des belles ferronneries.
Alors oui, alors moi j'ai eu plus la ferronnerie, mais un très beau marbre sculpté.
En forme tombeau.
Oui, en forme tombeau.
Ah, ça,
oui.
Ça,
avec un chaleureux. Couvercle, meuble à viscères. En fait, ce sont comme des petites boîtes un peu importantes qui doivent faire à peu près 15 cm de haut, qui sont avec un contournement, puisqu'on l'explique à la radio, avec un contournement tout à fait Louis XV, avec un très beau marbre sculpté, très sombre, généralement, comme des, on n'a pas des couleurs rouges grillotes, on a plutôt des marbres plutôt...
Des brèches,
effectivement, et avec deux compartiments, et effectivement, il peut y avoir une serrure. Chose que je n'ai pas, mais peut-être que vous allez m'en trouver une, mon cher ami Romain.
Oui. Voilà. À ne pas confondre avec une boîte à épices.
Ah oui, c'est pas tout à fait pareil. Une boîte à épices, c'est pas pareil.
C'est vrai. Les serrures font partie des stocks que nous essayons de constituer, qui sont les stocks les plus précieux, avec les bronzes, toutes sortes de bronzes décoratifs, que ce soit les sabots, les entrées de serrure,
les poignées,
les chutes qui viennent dans les angles des meubles, puisque tous ces bronzes étaient faits à l'origine pour protéger les arêtes saillantes des meubles.
Avec des cannelures simulées.
Voilà, et qu'ils soient protégés des frottements, si vous voulez, qu'ils ne s'abîment moins vite de cette manière. Mais c'est vrai que le bronze, au XVIIIe comme au XIXe siècle, on a la technique de la ciselure est très aboutie au XIXe siècle. Le bronze va vraiment finir le meuble et va lui révéler toute sa beauté. C'est très important, le bronze, pour habiller un meuble. Voilà. C'est déterminant même. Qu'est-ce que vous en pensez, Benoît ?
Moi, j'aurais aimé que tu dises que quand tu as un bronze 18e dans la main gauche et un 19e dans la main droite... Le 10e, beaucoup plus léger.
Et puis le style n'est pas le même entre un bronze du 18e et un bronze de Thomire.
Bien sûr.
Mais c'est bronze, différent, dans deux genres différents.
Bah, un bronze Louis XIV, il va être un peu plus gras, un peu moins ciselé.
Et puis fixé d'une manière bien différente, parce que les attaches sur un meuble 18e d'époque Louis XIV, elles sont avec des vis qui sont des vis apparentes.
Oui.
Ce qui n'est pas le cas du tout des meubles.
Thomire, c'est des petites vis à l'arrière du bronze.
Voilà. Et avec des, c'est vous qui pouvez en parler. Mais quand on parlait de Benman tout à l'heure, où on parlait de, d'autres ébénistes du 18e, même le bureau de Ben, on voit pas les attaches, pratiquement pas.
Oui. Parce qu'elles sont dissimulées derrière le bronze.
Voilà.
Et elles sont. Ce sont des pointes en laiton qui sont filetées et vissées à l'intérieur du bronze.
À l'arrière du bronze.
Et on vient.
Le plaquer.
Et l'insérer dans le bois. Donc les fixations sont invisibles sur le parement.
Et donc là, on peut parler. Vous devez restaurer l'un et l'autre des caisses d'horloges.
Là, j'allais y venir, parce que le bronze est très important, parce qu'il permet de dissimuler les coupes. Par exemple, pour un cartel en corne verte, le bronze suit la partie que vous découpez entre les deux cornes. Ce qui fait qu'à la fin, vous ne savez plus si c'est un minéral ou autre. Quand c'est joli, un cartel en corne verte.
Un cartel en corne verte.
Ça fait rêver.
J'ai un de mes confrères qui, hier, justement... me demander le prix de ce que ça pouvait valoir. Et je voyais, en fait, ce cartel avait dû être probablement refait. Et en le refaisant, ils en avaient rajouté un petit peu trop. Et c'était, dans une succession. Et d'ailleurs, le voilà.
Ils avaient rajouté des bronzes ?
Et je pense qu'ils ont dû rajouter des bronzes. Mais un joli cartel avec le contre-socle bien refait, parce que il faut reconnaître que on a quand même des faussaires d'une manière générale, mais on a aussi des ébénistes qui ont fourni des maisons importantes d'antiquaires et qui ont de temps en temps, pour des gens un petit peu précieux, voulaient avoir des choses un petit peu qui sortent de l'ordinaire et qui faisaient des choses un peu trop étonnantes. Et je pense que ce cartel-là...
Les dragons sont un petit peu incongrus
voilà.
Avec le japonais au-dessus.
Et, exactement. Chinois. Et donc, je disais à mon confrère hier, un de mes très très bons amis...
L'inspiration d'extrême-orient.
Trop, c'est trop. Et je lui ai dit, attention, 2500, c'est quand même beaucoup pour quelque chose qui, en fait, est assez déséquilibré. Par le fait même d'une notion décorative, tous les aimants décoratifs ne se complètent pas. C'est une surcharge pour moi. Et je suis content de vous montrer ce cartel.
Dans le jargon, on dit qu'ils l'ont customé.
Ils l'ont
customé.
Customé, ben exactement. Voilà. Et tout ça pour dire que...
Mais la base est intéressante, ça ressemble à un modèle de Dubois, ça.
Et oui, un beau modèle, avec mais
chinois, oh
trop, c'est trop, voilà. Mais le petit chinois
avec son ombrelle
à l'amortissement et pas tout à fait de la bonne époque, voilà.
Ouais. Voilà. Mais, oui, ça fait partie aussi du charme de cette époque Louis XV où on avait beaucoup d'intérêt pour l'Extrême-Orient et même les décors, les peintures de Jean-Baptiste Piment.
Oui, ben c'est typiquement.
Qui faisait des fresques.
Et qu'on voit d'ailleurs à Chantilly, dans le cabinet qui est tout à fait au nord, extraordinaire, le cabinet avec toutes les chinoiseries.
Ouais.
Magnifique.
Oui, je le vois très bien. Ouais.
Alors, des lacs, des panneaux.
Des fresques.
Ouais, exactement.
C'est peint.
Allez à Chantilly, mes chers auditeurs. Allez à Chantilly, c'est un musée exceptionnel. Il y a eu d'ailleurs une émission il n'y a pas très très longtemps.
Vous préférez les Français, ont-ils dit.
Oui, peut-être. Mais c'est un endroit, il faut aller faire un tour là-bas. C'est un des plus beaux musées qui soit en France.
Avec l'environnement est extraordinaire.
Et l'environnement est assez étonnant. Ouais. Dans un autre genre, mais on va passer un deuxième morceau de musique, c'est de Mozart. Et puisqu'on parlait du 18e, typiquement du 18e, qui a été composé également vers les années 90, quelque chose comme ça. On va passer l'adagio du concerto numéro 21 de Mozart. Cette pièce a été prise dans un film que j'avais vu et qui avait été élaboré en 1970. J'avais 15 ans, mon père m'avait emmené, mes parents m'avaient emmené voir ce film, qui était La Maison des Bories. Je vous conseille de regarder ce film aujourd'hui, vous éditeurs de Radio Courtoisie, parce que d'aucuns vous diront que c'est désuet. Ben non, nous, je pense que c'est dans la transition du respect de l'amour humain et du couple en tant que tel. Vous avez un film assez étonnant, La Maison des Bories. Et là, on a ce beau concerto numéro 21. Là, on prend un adagio. Si vous voulez bien, mon cher Axel, faire écouter ce morceau très classique, mais le classique ne se démode pas.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Thank you.
Eh bien, nous allons continuer cette émission Art Bâton Rompu. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir avec moi Romain Gardet de Sauce et son confrère Benoît Blaise, tous les deux ébénistes en art. Et nous écoutions un beau morceau de musique et je crois que la passion qui nous guide par nos métiers respectifs, elle est aussi dans l'harmonie et je crois de la musique. Mais il y a aussi, est-ce qu'il y avait une harmonie ou est-ce qu'il y a dans vos ateliers une harmonie comme ça? Parce que vous avez commencé, Romain, dans l'atelier de Benoît, Blaise dans le faubourg Saint-Antoine. Je ne veux pas.
Pour vous donner une idée de l'harmonie de l'atelier, oui. D'un côté vous aviez Romain qui écoutait cette magnifique radio, et à l'opposé vous avez le vernisseur qui écoutait Radio Libertaire. Et tout ça se passait très très bien.
Oui. Mais c'est peut-être pas encore engagé aujourd'hui. On peut peut-être passer ça du.
J'ai eu de longues discussions avec mon ami Mauro. Je lui dis, tu trouves pas que tous ces gens ont un ton un peu haineux? Il me dit, mais pas du tout. Je me dis, il n'y a pas d'amour dans ta radio, je comprends pas. Et c'était des discussions tout à fait sympathiques.
Alors vous aviez, aujourd'hui, vous avez encore combien d'employés dans votre atelier?
Aujourd'hui, il me reste un salarié qui va me quitter en même temps que moi. Une apprentie, qui est douée d'ailleurs, qui le sait.
Qui le sait.
Et peut-être un repreneur qui s'appelle Emmanuel Bisonnière, qui serait peut-être intéressé par la succession de ce bel endroit. Mm-hmm. Et voilà, moi j'ai un petit peu fini en pente douce là, dernières années.
C'est bien,
comme
mais
vous
avez commencé par contre, où vous aviez un grand nombre d'apprentis.
Ben, ils sont
et
tous
autres.
Arrivés les uns après les autres, c'était plus sympa, ils se connaissaient tous entre eux. Le matin, ils étaient là très tôt, bien avant moi. Chacun avait son activité. Le matin, c'était assez silencieux. Mais après le déjeuner, c'était plus animé.
Ce qui est assez légitime. On n'aime pas parler au petit déjeuner.
Mais avec le vin rouge, ça a aidé.
Ça peut, oui.
Mais c'était très sympathique. Et Romain était là-dedans.
Ouais. J'ai connu cette ambiance extraordinaire, assez cosmopolite, puisque parmi vos employés, il y avait un peu toutes les origines grecques pour le sculpteur, italiennes pour le vernisseur. Deux vernisseurs italiens.
Ils parlaient souvent de leur pays d'origine,
Mauro,
entre eux.
Mauro, dont vous parliez, et Giovanni.
Tu te rappelles, le grec a dit au napolitain, mais Giovanni, Naples, c'est grec, c'est Néapolis.
Ah oui.
Et là, il y a une diatribe épouvantable. Ça finit par ta graisse pourrie et tes trois cailloux. C'était terrible. Là, ça montait dans les décibels.
C'était très sympathique.
Une grande ambiance.
Des personnes très authentiques et très chaleureuses, très sympathiques.
Et alors vous, aujourd'hui...
Fort caractère.
Et alors vous, aujourd'hui, Romain, vous avez combien d'employés?
Nous sommes trois.
Sommes
trois. J'ai Mathieu qui travaille avec moi. Qui est d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, de Yann Gohin. C'est le neveu de Yann Gohin.
Très compétent.
Mathieu, qui est très compétent, qui est, je dis souvent, le pilier de l'atelier. Qui travaille avec moi depuis 15 ans. Il a commencé en apprentissage, et puis je l'ai embauché à la suite de ça. Et j'ai un autre apprenti.
André Charles,
qui porte le prénom du grand ébéniste de Louis XIV, puisque Boulle portait ce beau prénom.
André Charles Boulle.
Oui. André Charles travaille avec nous depuis, c'est sa première année, et il a une bonne évolution. C'est toujours un petit peu difficile les premiers mois de comprendre, d'assimiler les bons gestes pour réussir des collages, pour bien tenir ses cales et ses serre-joints.
C'est beaucoup de patience.
Oui, beaucoup de patience.
Une méthode et de la patience.
Et quelquefois des petites bêtises, mais c'est en faisant. C'est comme ça qu'on progresse. Évidemment.
Mais c'est pas irréparable, la petite bêtise chez vous?
C'est toujours réversible parce que quand ils sont en début de formation, on ne confie pas aux apprentis des objets. Fragiles ou
très précieux
ou difficiles à restaurer.
Ouais.
On va leur confier des petites tâches qui sont, par exemple, le décapage d'un vernis.
Oui, mais c'est des bases importantes.
Puisque ça aussi, ça fait partie de notre métier, puisqu'on n'en parlait pas trop jusque-là, mais les meubles souffrent de la lumière, des ultraviolets qui absorbent les couleurs du bois.
Ce qui fait que tous les meubles sont insolés quand vous êtes
plein soleil. Ils sont un peu trop à la lumière. Et ça peut aller très vite. Hein. C'est pour ça qu'on recommande toujours à nos clients de ne pas exposer les meubles trop à la lumière. Au contraire, de les mettre entre deux fenêtres, par exemple, pour ce qui est des commodes, avec des rideaux qui protègent un peu. Mmh. Voilà. Donc, les meubles... je vais revenir sur l'atelier. Donc, nous sommes trois. Et j'ai cet apprenti qui commence à maîtriser et à prendre confiance en lui dans son travail. Et j'en suis très heureux. Et donc, Mathieu, dont je parlais tout à l'heure, qui est un as et qui est marketeur. Moi, mes souvenirs avec Benoît sont extraordinaires. Durant mon apprentissage...
On parlait de ton atelier.
Oui, ça y est.
Il faut aller le voir, il est magnifique, il y a une belle vitrine.
Je ne connais pas son atelier.
Mon atelier est tout petit.
Vous avez une piscine en face, un tennis, vous pouvez faire allier l'utile et l'agréable.
Oui, je ne la connais pas, la piscine. Le tennis, très peu, pourtant je pratique avec joie ce sport, mais plutôt le week-end. Non, l'atelier n'est pas très grand, j'ai que 55 mètres carrés. Mais j'ai découvert donc ce beau métier de manière, pareil, crescendo chez vous, Benoît, lors de mon apprentissage. Et puis après, j'ai pu travailler sur des merveilles, comme on disait tout à l'heure. Et j'ai pu participer à cette ambiance fantastique et familiale qu'il y avait au sein de cet atelier. Puisqu'il y avait donc des personnes d'origine très différentes, de milieux un peu différents, mais on s'entendait tous très bien et j'ai de bons souvenirs durant ces 10 années passées avec vous, puisque c'est vous qui mettiez cette ambiance de travail et joyeuse.
Parce que vous aviez vraiment un but commun, c'était œuvrer pour le bel ouvrage, et c'est ça. Et alors, vous me dites que vous avez un atelier qui fait 55 mètres carrés, mais alors vos réserves, parce que vous devez avoir des réserves aussi bien pour de la serrurerie, des bronzes, tout le matériel, et puis le placage.
Les placages prennent beaucoup de place.
On va demander à Benoît ce qu'il pense des placages aussi, et les techniques de placage, mais avant, expliquez-nous.
J'ai un petit peu de mal à stocker tout ça. Vous touchez là... Un de mes petits problèmes.
Parce que vous n'arrivez pas à ordonner tout
matériel,
ça dans votre...
J'arrive tant bien que mal à ranger tous ces éléments, que ce soit mes bois massifs qui sont triés en fonction de leur taille et mes plaquages qui sont tous stockés en fonction de leurs essences, en fonction de qu'ils soient des bois en fil, en ronce ou en loupe. Donc ils sont triés et ils sont installés tout le long des murs sur des étagères. Voilà. Donc ça prend pas mal de place le bois, c'est vrai. Après, comme en restauration de meubles, on utilise très peu le bois massif, c'est surtout le plaquage. Et on utilise comme bois massif que des bois récupérés d'anciens meubles, parfois même que je trouve dans la rue.
Ah oui, bien sûr.
Je récupère des bois bien secs et bien de bien belle qualité qui ne sont plus exploités de nos jours, comme l'acajou de Cuba ou le palissandre de Rio, qui sont des merveilles. Après, en effet, j'ai mes stocks dans des meubles à tiroirs qui sont des stocks de bronze qui sont classés également en fonction de leur style ou de leur qualité d'usage. Et puis, autre stock de produits, de teintes, de vernis, de pigments, de couleurs, et puis d'outillage.
Et vous, Benoît, vous avez un stock
Avant de vous parler de plaquage, j'ai oublié que j'ai deux personnes à l'atelier, là, ils ne vont pas être contents parce qu'ils écoutent.
Oui.
Ils sont en reconversion l'un et l'autre.
Oui.
Jérémy et Benoît, qui sont sur un très bel objet en ce moment, un banc en renaissance italienne.
Ah,
à tout à l'heure. Et au niveau des plaquages, on utilise beaucoup de plaquages scié au bois montant, vous savez.
Alors, expliquez bien ce qui est un
plaquage. Vous prenez un tronc d'arbre, vous le mettez contre une crémaillère, vous faites monter la crémaillère toutes les secondes, et horizontalement, vous avez une lame qui vous débite
le
une
tronc.
Feuille de plaquage en... un quart d'heure, 20 minutes, c'est très long à faire. Mais le bois est magnifique parce qu'il n'est pas étuvé, il est complètement nature. Vous mettez un coup de racloir et c'est un bijou. Alors que les plaquages tranchés ou déroulés sont plongés dans des étuves et la fibre est un peu arrachée. C'est utilisé pas mal pour l'agencement, pour des choses un peu uniformes. Alors que nous, on cherche le défaut dans le bois.
Et le port s'ouvre à cause de ces étuvages, de cette humidité.
Oui, et puis ces plaquages très fins, on compense leur fragilité par des vernis épais. Et nous, c'est l'inverse. On a des plaquages épais et des vernis en définition très fine. Pour que la lumière rentre bien dans
Alors, et vous, votre stock, il arrive de chez...
Moi, j'ai le stock de mon vieux maître, plus de nombreux ateliers qui ont fermé toutes ces années. Mmh. Et voilà, j'en ai pas mal.
Oui. Benoît, vous avez aussi la chance d'avoir un atelier d'une très bonne taille et de pouvoir stocker toutes ces réserves qui sont rares. Puisque les stocks dont vous m'avez souvent fait profiter, d'ailleurs, très généreusement.
Pas trop rentrer les détails, parce que la plupart sont totalement proscrits aujourd'hui.
Ah oui ?
Ce qui est un peu ridicule.
Ah bah une fois de plus.
Mais vous avez des stocks
pour
rares,
donner une idée
très,
de
très
la bêtise humaine, on a une magnifique shoot cafetière, je crois. Art déco magnifique, tout en rond. C'est à coup de marteau, là.
Oui, bien sûr, martelé.
Avec un petit escargot en...
Oui. Oui, en prise.
C'est ça, la prise, en machin, là.
Oui,
on a...
Non, je vois
et
pas.
On m'a demandé de tout démonter, enlever la bague en ivoire et mettre n'importe quoi à la place.
Ah oui, parce que l'ivoire, effectivement, aujourd'hui, on a malheureusement eu un décret qui, aujourd'hui, interdit le commerce de l'ivoire. Que ce soit ancien ou pas.
Donc l'objet un siècle.
L'objet, malheureusement, nous, on ne peut même pas le transporter.
Ah oui.
Voilà. Donc c'est un drame parce que on a des gens qui disent moi j'ai rien à faire de cette pièce. Ma grande tante nous a légué son appartement et vous en tant que commissaire-priseur vous pouvez pas vendre ou alors il faut que vous demandiez un certificat pour les voilà
un CITES c'est un arbre
mais effectivement bonjour. C'est CITES pour l'arbre et CITES pour le décret que Madame Royal n'a pas fait d'une manière très très royale mais assez républicaine puisqu'on est à Radio Courtoisie on va dire les choses comme ça et donc des anneaux par exemple des verseuses eh bien soit les gens les détruisent et alors que ça a été fait, ce n'est pas qu'un anneau, c'est vraiment fait inscrit dans la courbure de l'anse. C'est un travail extraordinaire et il faut reconnaître que là aussi, on est en train de on ne peut même plus limiter la casse.
Ouais.
Et donc vous parliez du plaquage en tant que tel et ces stocks ça représente quoi comme volume?
Écoutez, l'immeuble fait je sais pas 30 mètres de large sur 7
de profondeur.
Ouais. Ben, la moitié de la cave est
vous devez avoir 100 mètres carrés de plaquage.
Ah oui, c'est ça, oui. Et vous en servez donc
oui, bien sûr.
Tous les jours, et vous savez ce que vous avez.
Oui.
Vous savez ce que vous avez, et vous savez où se trouve ce placard.
Je sais que je ne sais plus ce qu'il y a dans les piles du bas.
C'est ça, oui. Mais enfin,
je sais qu'il y a des merveilles.
Voilà. Donc, de temps en temps, c'est comme ranger sa bibliothèque, vous rangez vos placards.
Ouais.
Vous avez même deux caves. Oui.
Maintenant, c'est bon, Romain.
Oh. Ouais, on va tout savoir. On va tout savoir. Donc, le mobilier, essentiellement,
quand même.
Et vous restaurez des sculptures aussi ou pas?
On a un sculpteur merveilleux qui s'appelle Jean Deric, qui est à côté de l'atelier, que j'aime beaucoup, qui est très très doué.
Ah oui.
Qui restaure aussi bien la main d'une vierge que...
Vous lui mettez un pied de retour, il sait exactement l'esprit de l'objet. Ouais. Et en plus, il est très sympathique.
Oui, ben ça, c'est pas anormal dans mais nos...
Lié,
dans
et je lié. Peux en témoigner, parce que j'ai souvent fait appel aussi à lui. Et c'est vraiment un grand artiste. Et les pièces manquantes qu'il restitue se fondent parfaitement à l'objet. Et
c'est comme un restaurateur de céramique ou de terre cuite. Hein, ouais. On ne trouve pas ça sous le pied d'un cheval. Hein.
Et c'est un artisan très discret.
Je vais confier une très jolie petite console Louis XV qui est à la bibliothèque polonaise dans l'île Saint-Louis. Là, un petit bijou. Mais il manquait la partie centrale.
Il a vu tout de suite.
Parfaitement. Enfin, on voit même pas que c'était refait.
Ah, oui. Oui, il a vraiment intégré à la fois son génie dans la pièce et dans l'exécution.
Il y a Jean qui fait la sculpture et j'ai Tom Middleton, un doreur au rez-de-chaussée qui a fait la finition.
On parlait des bronzes tout à l'heure et les bronzes, bien sûr, sont dorés et au XVIIIe siècle, on les dorait au mercure.
C'était vraiment les plus beaux. Hein.
Vous pouvez expliquer exactement la dorure au mercure, messieurs ?
Romain.
Je vais vous laisser Benoît expliquer.
Je vais aller plus vite.
Ne faisons pas monter le mercure.
C'est magnifique à voir.
Hein. Oui, bien sûr.
J'ai eu ça sur une très belle commode extraordinaire qui venait du duc de Penthièvre, un bijou. Et on a redoré le mercure, les bronzes qui étaient très très abîmés. Et j'ai eu droit à une démonstration de M. Kern, qui était l'établissement Maillot, qui sont malheureusement fermés. C'est de l'alchimie, c'est fabuleux. Hein.
C'est-à-dire
il a un évier devant vous,
voilà.
Il prend le bronze qui a été nettoyé dans un bain de chlorhydrique, je ne sais quoi,
oui.
C'est secret.
Il est complètement décapé, il est donc brut.
Et sur le bord de son évier, vous avez une espèce de boule tout à fait malléable, qui ressemble un peu à comme une espèce de boule mate, comme une boule d'étain un peu. Et il prend un balai de jazz, vous voyez, pour jouer du jazz métallique, là.
Oui.
Il tapote cette espèce de boule très malléable. Et il répand sur le bronze tout cet aspect grisâtre, surtout le bronze, il le couvre de cette matière.
Un peu comme le blanc de Meudon sur
non,
un...
Non, non,
non.
Et après, en fait, ça, c'est un mélange de mercure et d'or.
Ah, le mercure. Et ça a cet aspect...
C'est extraordinaire. C'est comme une...
Quand une boule grise.
Vous prenez un ballon de baudruche, vous mettez du plat dedans, vous poussez dedans, c'est la même sensation. Et ça, il le fabrique en faisant une espèce de grand cigare avec une feuille de papier, la feuille d'or, le mercure, il roule tout ça, il brûle le papier. Et on finit avec une espèce de boule malléable. Et le balai de jazz, là, il tapote cette boule, il répand ça sur tout le bronze. Vous avez quelque chose de grisâtre devant votre nez. Et après, il prend le bronze avec deux pinces presselles, il passe ça sur une flamme. Toutes les vapeurs de
mercure
partent
monte.
Dans une hotte.
Ah oui.
Et l'objet devient...
Et l'or se colle directement dessus.
Il passe du côté un peu grisâtre, à un côté moutarde, mat, comme un jaune d'or mat.
Oui. Et après,
il passe ça sur une brosse à poils de sanglier avec un filet d'eau. Et là, vous avez un soleil qui apparaît. Et il finit après, pour faire des mats et des brunis, il brunit les parties
bien sûr,
extérieures.
Bien sûr.
Et les parties mats, ça donne du relief au bronze, avec des pierres d'agate ou tout ce qui... des copeaux.
Ah
de...
oui. Pourquoi je vous parlais du
des
blanc
des corses de Panama et compagnie, ils ont chacun leur
et secret. Pourquoi je vous parlais du blanc de Meudon ? Parce qu'on peut parler aussi de la technique de la dorure sur des cadres ou des boiseries.
Absolument, ah ouais. Avec la colle, le pot de lapin et le blanc de Meudon.
Et puis le coup de l'aimantation avec
l'électricité.
Expliquez ça. Oh.
Mais c'est la dorure sur bois, c'est aussi un art qui est très long, qui demande beaucoup de patience. Et il y a plusieurs étapes, de nombreuses étapes là encore dans ce métier. Mais
dorure à l'eau.
Oui, la dorure à l'eau.
Et la dorure à la mixion.
Et la dorure à la mixion, donc une dorure qui est à l'huile. Ah. Ouais.
Je crois que.
Eh bien, je pense que la plus grande difficulté dans ce métier de doreur sur bois, c'est après avoir passé successivement plusieurs couches de laque. À base de blanc de Meudon et de colle de peau de lapin pour recouvrir la sculpture à dorer, eh bien c'est de reprendre les contournements de cette sculpture.
Qu'est-ce que tu me parles de lac ?
Qui s'appelle la reparure. Et la reparure ?
Blanc de Meudon, la colle de peau de lapin, Rosane, qu'est-ce que ça a à voir avec une laque ? Je ne comprends pas ce que tu me dis. Il y a plusieurs couches de blanc de Meudon et de colle de peau avec différentes...
comme une laque.
On met plus ou moins de blanc de Meudon par rapport aux couches que vous passez. Et après, vous allez faire à reparer pour donner toute la nervosité de la sculpture. Et après, vous allez les étapes de la dorure.
Ouais.
Avec l'assiette en fonction de l'époque où ça a été fait. Elle est marron foncé sous Louis XIV, elle devient un peu plus brune sous Louis XV, elle est carotte sous Napoléon III.
Ouais.
Et ça vous permet d'identifier...
Oui, pour savoir exactement quand est fait la dorure.
Nos amis britanniques et leur flegme glacial, ils ont des assiettes noires, noires sous la dorure, ça fait une dorure très froide.
Mm-hmm.
Et voilà, il va passer la musique. Monsieur.
On va bientôt terminer cette émission, puisque Axel gentiment nous a préparé cette émission. Je le remercie beaucoup. On a parlé effectivement vraiment à bâton rompu. Eh bien, si vous voulez revenir sur un sujet un jour, n'hésitez pas. Nous avions aujourd'hui cette émission avec Romain Gardet de Sauce et Benoît Blaise, qui sont deux ébénistes. L'un est d'abord
travaille en courbe ascendante et l'autre en courbe descendante.
Oui, on va dire ça comme ça. Il y a un jeune et puis un moins jeune. Mais tout ça fait la passion de votre métier. L'un habite et travaille à Garches et l'autre est dans le Faubourg Saint-Antoine.
À Paris,
bien sûr. Si vous avez besoin de leur adresse, n'hésitez pas. Moi, je fais travailler Axel, mais peut-être aurais-je le privilège de faire travailler Benoît prochainement. Je vous souhaite une très bonne... très bonne journée. Nous allons terminer peut-être avec un petit extrait du premier mouvement du concerto numéro 1 pour piano de Jean-Sébastien Bach, qui affectionne nos deux auditeurs. Merci, exactement, nos deux ébénistes.
Qui me met toujours en joie, ce
voilà.
morceau.
Merci encore.
Beaucoup.
Merci,
maître.
Bientôt. Merci. Merci.
Vous venez d'entendre Histoire de l'art et du patrimoine, dirigé par Olivier Doutrebente, diffusé en direct sur Radio Courtoisie le 16 juin 2026, de midi à 13h30 et réalisé par Axel. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5€ par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9€ ou 6€ seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.